pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Clara et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 28 octobre et aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. L'intelligence artificielle est souvent décriée car jugée comme un outil qui remplacerait certains métiers. Dans le cadre de la médecine, les questions sont multiples. Que peut-elle apporter aux médecins? Comment rassurer les patients face à la protection de données avec son utilisation? Remplacera-t-elle un jour les docteurs? Pour en parler avec Emma, nous recevons Aurélia Couroyer Dulmont, chercheur ingénieur en imagerie médicale au Centre François Baclès à Caen. En 2024, il a gagné le prix Unicancer, gagné le prix d'investissement de l'innovation dans la catégorie G-Digital d'aide au service du patient lors de la convention nationale des centres de lutte contre le cancer grâce à un projet d'intelligence artificielle améliorant l'accès aux soins de radiothérapie. Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Deux chercheurs allemands viennent de remettre en question une loi fondamentale datant de deux siècles, celle du physicien Sadi Carnot en 1824. Ce dernier avait énoncé le second principe de la thermodynamique, une des lois les plus importantes de la physique. Elle stipule que dans un système, dès lors qu'on transforme ou qu'on échange de l'énergie, cela crée de l'entropie, soit du désordre. Ce désordre dissipe une partie de l'énergie. Au début de l'ère industrielle, Sadi Carnot s'intéresse aux machines thermiques et il comprend qu'en raison du principe de la thermodynamique, un moteur qui transforme de la chaleur en mouvement a forcément un rendement maximal qu'il ne peut dépasser à cause de perte d'énergie. Mais en quoi cette loi vieille de 201 ans est-elle remise en question? Deux physiciens de l'université de Stuttgart se sont penchés sur le cas des systèmes de petite taille, cassant ainsi le mythe du rendement maximal des machines thermiques. En observant ce qui se passe à l'échelle de quelques atomes, les physiciens ont constaté que les particules pouvaient former des systèmes de mini-moteurs capables de produire un travail mécanique. Cette découverte permettrait d'imaginer par exemple des machines microscopiques qui pourraient avec peu d'énergie réaliser des opérations biomédicales de point ou encore construire des matériaux spécifiques. Ce vendredi 24 octobre, la grande tante Jacqueline Jacob a été mise en examen dans l'affaire Grégory pour association de malfaiteurs. Ce qui a relancé l'affaire, la technique de la stylométrie après l'étude de la lettre revendiquant le crime. Selon l'enseignant-chercheur à l'Université de Paris sans ses lettres, Florian Cafiro, au micro de France Info, la stylométrie est, je cite, un champ scientifique bien établi. Selon un expert suisse en stylométrie, l'octogénaire a très probablement rédigé la lettre de revendication du crime. La stylométrie, c'est une étude statistique d'irrégularité dans la langue, se basant sur les longueurs de phrases et les structures grammaticales. Cette technique est utilisée depuis longtemps en littérature, notamment pour repérer les plagiats, mais elle n'avait jamais été utilisée dans le domaine judiciaire. C'est une première en France, rapporte Florian Cafiro. Mais en quoi cette technique est très critiquée? La défense de Jacqueline Jacob a parlé, je cite, d'expertise lunaire en critiquant la stylométrie, une réaction qui n'étonne pas l'expert, estimant que les avocats, je cite, font leur travail. Mais toujours selon l'expert, sur France Info, la stylométrie ne fait que systématiser ce type d'analyse. Avec l'intelligence artificielle, des calculs statistiques, une connaissance de l'analyse linguistique. Des microbiologistes de l'Université de Michigan ont récemment découvert une nouvelle classe de micro-organismes sous nos pieds. Ces microbes participent à purifier les sous-sols et alimenter les nappes phréatiques. Près de 70% des micro-organismes de la planète habitent dans la partie la plus profonde de la zone critique. C'est la fine couche épaisse de quelques dizaines de mètres seulement où interagissent la vie, les nutriments et le cycle de l'eau et qui recouvre la terre juste au-dessus de la roche mère. Des chercheurs ont réalisé des forages à plus de 20 mètres de profondeur en Iowa, au cœur des États-Unis et en Chine en explorant cette région encore méconnue, située tout en bas de la zone habitable du globe. Qu'ont-ils trouvé? Les chercheurs souhaitaient savoir si on pouvait retrouver les mêmes micro-organismes en deux points éloignés du globe. Ils ont trouvé la même chose des deux côtés du monde, des microbes particulièrement étranges, uniques en leur genre, baptisés CSP13. D'après l'analyse de leur ADN, leurs ancêtres vivaient probablement dans des eaux douces, avant de migrer vers les profondeurs du sous-sol terrestre. Ces nouveaux microbes pourraient jouer un rôle clé dans le processus de filtration et même être capables de métaboliser certains polluants lourds grâce à leur contribution au rôle purificateur du sous-sol. Pour l'instant, des chercheurs tentent de les cultiver en laboratoire afin de mieux les connaître. En attendant, ces derniers nettoient le monde sous nos pieds. Pour terminer ce flash, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur. 28 octobre 1948, le prix Nobel de médecine a été attribué au biochimiste Paul Müller. Ce dernier a découvert les propriétés insecticides du DDT. À ce moment-là, Paul Müller est docteur de l'université de Bâle. Il est attaché depuis de 20 ans au laboratoire de recherche des usines chimiques suisses JG. Après avoir étudié les corps tannants et les matières colorantes, il a consacré ses travaux aux insecticides. C'est dans ce domaine qu'il précisa l'action insecticide du composé synthétique dichlorodiphényl et trichloréthane, universellement connu sous l'acronyme de DDT. Cet insecticide a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale en quantité considérable contre les ectoparasites de l'homme. Il a préservé le typhus, un grand nombre de civils et a permis d'arrêter les épidémies naissantes. Il est devenu ainsi un moyen de lutter contre le paludisme, maladie généralement transmise par le moustique Anopheles.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Ce n'est pas la première fois et sûrement pas la dernière que vous entendrez parler d'intelligence artificielle dans C'est pas faux. On le sait, l'IA ne cesse de se développer et investit aujourd'hui un grand nombre de domaines d'activité et la santé ne fait pas exception. Son potentiel intéresse les chercheurs comme les professionnels de santé. D'après le centre François Baclès, l'intelligence artificielle apporte de nombreux avantages aux patients en améliorant la précision du diagnostic, en personnalisant les traitements, en améliorant la gestion des soins et en permettant un suivi plus efficace de la santé.
Pour en parler, nous recevons Aurélien Couroyer-Dulmont, chercheur ingénieur en imagerie médicale au centre François Baclès, à Caen, l'un des 18 centres de lutte contre le cancer de France. Membre du réseau Onicancer, vous faites également partie de l'unité de recherche ESTCT, imagerie et stratégie thérapeutique pour les cancers et tissus cérébraux, hébergé sur la plateforme Ciceron. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, vous pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre projet de recherche respectif ?
Alors, nous, au centre François Baclès et au sein de l'unité ESTCT, donc on travaille surtout sur quel pourrait être l'intérêt de l'imagerie, de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale notamment, pour voir comment on peut mieux caractériser, mieux comprendre le cancer, notamment un des sujets principaux qui nous intéresse, c'est les tumeurs cérébrales, de voir comment, grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir plus d'informations sur le cancer et mieux traiter les patients, de façon générale.
Et vous, votre projet de recherche, plus précisément, il consiste en quoi ?
Et nous, notre projet de recherche principal, ça va être de comment, avec l'intelligence artificielle, on peut regarder dans une imagerie médicale, obtenir des informations que le praticien ne pourrait pas forcément obtenir pour mieux prédire l'efficacité des traitements sur ces cancers. Typiquement, pouvoir mieux adapter les traitements et mieux prédire aussi si un traitement particulier va être efficace sur un patient particulier, donc ce qu'on appelle la médecine personnalisée, où on est beaucoup plus spécifique que dire un patient a un type de cancer, on va faire un type de traitement très standardisé. Non, là, on va essayer d'être un peu plus particulier, un peu plus personnalisé, grâce à des informations qu'on peut obtenir donc avec l'intelligence artificielle.
Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à introduire la thématique de l'intelligence artificielle dans votre travail ? Pourquoi vous y avez trouvé un intérêt ?
Alors, historiquement, il faut bien voir que l'intelligence artificielle est arrivée avec l'imagerie médicale pour des raisons d'architecture, d'algorithme. En fait, l'intelligence artificielle est très adaptée pour l'imagerie médicale. Et donc, en fait, les premières solutions qui sont arrivées au niveau des hôpitaux, et notamment d'une autre, donc c'était des solutions d'IA appliquées à l'imagerie médicale, l'imagerie TEP ou l'imagerie IRM, enfin des outils diagnostiques, et pour pouvoir accélérer, notamment en premier temps, accélérer les séquences d'acquisition, donc faire en sorte que les patients restent moins longtemps sous la machine d'acquisition. Donc en fait, vu que moi personnellement, je travaille dans un service de physique médicale où on est responsable de la qualité d'image et de la dose que va recevoir le patient lorsqu'on fait une acquisition d'imagerie. Et donc on est responsable finalement de ce qui se passe sur l'image, et vu que l'intelligence artificielle arrivait et puis modifiait les images pour pouvoir encore une fois les rendre, permettre une acquisition plus rapide, et bien on était responsable de ce que faisait l'IA sur ces images. Donc c'est pour ça qu'on s'y est mis au sein du service, pour se dire bah, il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'IA, quel impact ça a sur l'imagerie et donc sur la prise en charge de nos patients. Donc c'est pour ça qu'on s'y est mis au tout début.
Quand tout début?
Alors globalement, on peut dater ça, Baclès, autour de maintenant 3-4 ans. Voilà.
D'après le baromètre de l'accès aux soins de la Fédération hospitalière de France, quand les Français se rendent à l'hôpital, plus de la moitié d'entre eux rencontrent des difficultés dans l'accès aux soins. La situation est particulièrement préoccupante aux urgences, avec des difficultés multiples qui portent, entre autres, sur les délais élevés d'attente, mais aussi sur des examens médicaux absents. Résultat, les Français sont inquiets pour leur propre santé. Trois quarts d'entre eux craignent de ne pas pouvoir accéder à des soins de qualité en cas de besoin urgent, et 2 Français sur 3 disent avoir peur d'être hospitalisés vu la situation actuelle au sein de l'hôpital public aujourd'hui. Et vous, Aurien, vous travaillez à de sorte que le parcours de soins soit davantage pris en compte plus rapidement. Qu'est-ce qui fait concrètement obstacle à une prise en charge médicale idéale des patients, notamment à l'hôpital?
Effectivement, il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect, la disponibilité des machines. Quand je reviens encore une fois sur l'imagerie médicale, mais ça s'applique à d'autres problématiques, mais par exemple, on sait tous que pour avoir un examen IRM, un scanner, une radio, il faut attendre assez longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Il y a relativement peu de machines pour le nombre de demandes. Et donc, du coup, c'est là où l'intelligence artificielle peut être intéressante, encore une fois, parce qu'on peut réduire ce nombre d'acquisitions, ce temps d'acquisition, et donc permettre d'avoir plus de patients qui font une IRM par jour et donc de diminuer le délai. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on fait à Baclès depuis maintenant 2-3 ans. Donc ça, c'est un des intérêts que peut avoir l'IA pour améliorer cette prise en charge des patients. Et après, il y a l'aspect RH qui est très clair sur ce qui touche tous les hôpitaux. Hein. On a effectivement du mal à recruter parce qu'il y a beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes même. Mais on a relativement peu de professionnels de santé qui peuvent répondre à cette demande. Et donc c'est là où l'IA aussi peut être intéressant, parce que peut permettre de reprendre des tâches, des fois qui sont même pas des tâches très, très médicales finalement, qui sont juste d'organiser des plannings, typiquement, l'exemple le plus parlant, c'est les comptes rendus automatiques rédigés par intelligence artificielle. Effectivement, à l'heure actuelle, un médecin, quand il est en consultation, il passe beaucoup de temps à être les yeux sur son ordinateur pour cocher des cases, remplir des comptes rendus. Et finalement, il regarde assez peu le patient parce qu'il est focalisé sur son compte rendu qu'il doit rédiger. Et une des solutions d'IA qui peut être intéressante dans ces cas-là, c'est des solutions d'IA qui écoutent la consultation et puis qui rédigent automatiquement ces comptes rendus, et permettre aux médecins d'être plus avec le patient directement.
Lors des assises nationales de l'IA qui avaient lieu sur le campus 1 de Caen le jeudi 9 octobre dernier, des médecins ont affirmé que le véritable gain de l'avenue de l'IA dans le domaine de la santé était le gain de temps. Vous en avez déjà parlé, notamment en imagerie médicale, ce qui permettrait d'accorder davantage de temps patient. Est-ce que c'est une finalité qui motive votre travail, d'accorder davantage, que vous disiez tout à l'heure, de temps à l'attention du patient que sur un ordinateur ou sur...
Voilà, typiquement, puis c'est vraiment effectivement que ça ne m'étonne pas que ça ait été dit à l'assise de l'IA, parce que c'est vraiment, même nous au niveau du centre, on voit toutes les discussions qu'on a avec les médecins, c'est d'avoir plus de temps pour faire de la médecine finalement. Et faire de la médecine, c'est être avec le patient, c'est pas rédiger, c'est pas cocher des cases dans un dossier médical, enfin pas que en tout cas. Et donc du coup, c'est vraiment ça l'aspiration que tout le monde a, les médecins. Et après, nous, quand on met en place des solutions d'IA, qu'on développe des solutions d'IA, c'est cette approche qu'on essaie d'avoir.
Mais les médecins qui utilisent l'IA dans leur travail, des fois, ils ne sont pas confrontés à des patients qui seraient plutôt réfractaires aussi à l'utilisation de l'IA et qui seraient inquiets, en fait, justement, que le compte-rendu soit fait par une IA. Est-ce qu'il y a des gens qui s'y opposent, mais qui sont inquiets à ce sujet?
Alors, donc l'inquiétude, de toute façon, ça vient toujours de quand on ne connaît pas les choses. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est très important qu'il y ait, par exemple, l'assise de l'IA, qu'il y ait des communications comme celle d'aujourd'hui. C'est d'informer, sensibiliser les gens à finalement qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que l'IA en santé, pour vraiment se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Et puis, du coup, généralement, en sachant ces choses-là, ça diminue la crainte. Après, de toute façon, il faut bien voir qu'il y a différents garde-fous pour tout ça. C'est que l'AI Act qui a été donc voté au niveau européen l'année dernière et qui va être au fur et à mesure mis en application, notamment en France et notamment dans le domaine de la santé, c'est de dire qu'il faut une garantie humaine à la fin. Donc c'est-à-dire que même si une IA fait un compte-rendu automatique, modifie une image pour la rendre accessible plus rapidement, prédit un parcours patient pour un patient, enfin bref, n'importe quelle prédiction par un algo d'IA, de toute façon à la fin il faut qu'il y ait un responsable humain. Donc si c'est une tâche médicale, il faut qu'il y ait un médecin, si, etc. Pour d'autres approches, mais en tout cas à la fin il y a toujours un humain qui valide ou non la décision de l'algorithme. Et c'est pour ça que c'est important aussi que les professionnels de santé soient formés à l'IA, parce que pour dire oui je fais confiance ou non je fais pas confiance à ce que me prédit l'IA à un instant T, il faut comprendre comment l'IA fonctionne. Donc c'est pour ça que l'aspect formation et aussi au moins sensibilisation est extrêmement importante. Et nous, on pousse beaucoup là-dessus, on propose des formations, que ce soit à des professionnels de santé ou à des experts en intelligence artificielle. Avec l'université, on fait ces approches-là.
Justement, en termes de formation et de professionnalisation, encore lors de ces assises de l'IA, il y a également été évoqué l'intérêt d'avoir des professionnels de la tech directement dans les établissements de santé. Est-ce que vous pensez que la présence des professionnels de la tech seront de plus en plus nécessaires dans les hôpitaux ? Comment on trouve un juste milieu entre les professionnels de la tech présents dans les établissements de santé et la formation des médecins qui doivent aussi savoir ce qu'ils font forcément ?
C'est pour ça que nous, avec la direction du centre, on a vite pensé qu'il fallait qu'on ait une unité de lieu, enfin un espace où on peut faire venir justement ces professionnels de la tech, ces experts en intelligence artificielle, pour qu'ils puissent communiquer avec les professionnels de santé, puisque l'un puisse nourrir l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on a inauguré l'année dernière une workstation, un espace de travail IA, où on a donc, comme son nom l'indique, un espace où les professionnels de santé peuvent venir pour apprendre à développer des algorithmes intelligence artificielle. Des experts en intelligence artificielle peuvent venir pour travailler sur nos données, sur notre centre, pour voir les problématiques qu'on a, pour discuter justement avec les professionnels de santé, pour comprendre. Parce que finalement, effectivement, nous on le voit beaucoup avec les premiers échanges qu'on a eu au tout début, c'est qu'ils sont experts dans leur domaine de l'IA, mais il faut qu'ils puissent discuter avec des professionnels de santé pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont nos données brutes qu'on a, sous quel format ils ont, etc. Et donc c'est pour ça qu'on avait développé cette workstation, et c'est là notamment où les étudiants du master IA Santé de l'université viennent se former. Il y a des TP qu'on fait avec eux directement sur nos données, et ils viennent directement sur site.
Et cette collaboration entre les professionnels de la tech, de l'intelligence artificielle et le corps médical fonctionne bien ? Ça, c'est des choses qui...
En fait, oui, ça fonctionne bien dans le sens où de toute façon tout le monde est demandeur. En fait, très clairement, les professionnels de santé, ils voient l'arrivée de l'IA. Encore une fois, ils sont responsables de la prise en charge du patient, donc ils se rendent bien compte qu'il faut qu'ils soient formés là-dessus, il faut qu'ils apprennent comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, les experts en IA, en fait, ils ont, comme tout le monde maintenant dans la société, enfin de plus en plus en tout cas, ce besoin de donner du sens à leur métier. Et effectivement, quand on discute avec eux, les experts en IA, de dire qu'ils vont amener leurs compétences en intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge des patients de demain, c'est vraiment quelque chose qui les motive énormément. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec ces étudiants et les professionnels de l'université, parce que c'est quelque chose, on voit bien, qui intéresse tout le monde.
Aurélien, votre projet vise à prédire les résultats des contrôles qualité en radiothérapie sans utiliser les machines. Comment l'IA parvient-elle à simuler ou anticiper ces contrôles ?
Alors en fait, d'une manière générale, l'intelligence artificielle, de toute façon, c'est on lui donne des données d'entraînement et il doit nous faire une prédiction à la fin. C'est globalement, on lui dit qu'il y a tel élément qui prédit tel autre élément et il s'entraîne, il crée une équation mathématique pour pouvoir passer des données d'entrée aux données de sortie. Et nous, notre problématique, c'était, encore une fois, avec cette notion de disponibilité des machines, c'était pour la radiothérapie, c'était on doit faire des contrôles qualité, globalement, c'est s'assurer que la dose qui va être délivrée au patient est bien celle qui était prévue. Et en fait, on a des... Donc ça prend du temps, ça immobilise la machine, donc du coup, les patients doivent encore une fois attendre plus pour avoir leur traitement. Et là, ce projet-là, donc, c'était de développer un algorithme d'intelligence artificielle, donc on a développé au centre directement, pour pouvoir prédire si un contrôle qualité serait conforme ou non, de manière à faire gagner encore une fois du temps de disponibilité machine. Donc ça, on a publié ça, on a obtenu le prix d'innovation unique cancer pour ça, et c'est un exemple typique de solution qu'on développe nous-mêmes pour améliorer la routine finalement.
Et vous avez déjà des résultats liés à ce dispositif? Combien de temps est-ce que vous avez, je sais pas, une échelle de temps que ça vous fait gagner justement?
Alors on avait regardé, effectivement c'est des moyennes, mais globalement c'était on était autour de 40 minutes par semaine de gagner sur... Enfin, ça dépend effectivement de... Comment dire? Du degré de liberté qu'on veut un peu donner. Est-ce qu'on fait tous les contrôles qualité? Est-ce qu'on différencie par localisation tumorale, par type de traitement, etc.? Enfin voilà, on a une fourchette en fonction de se donner plus ou moins de latitude et puis de sécurité. Mais voilà, c'est globalement à peu près ce genre de temps.
Est-ce que cette solution de l'IA a-t-elle été intégrée dans plusieurs centres de lutte contre le cancer?
Alors, c'est vraiment, oui, vu qu'on est justement membre du réseau Unicancer, c'est des discussions, tous les développements qu'on fait. En fait, on fait beaucoup de développements avec d'autres centres de lutte contre le cancer en France. Donc, il y a Rouen qui est aussi très avancé sur l'intelligence artificielle, qui a un nouveau bâtiment pour faire de la recherche sur le domaine. Et Nice aussi, notamment. Donc, c'est vraiment deux centres en particulier avec qui on travaille beaucoup. Donc, Antoine Lacassagne à Nice et puis Becquerel à Rouen. Donc, toutes les solutions qu'on développe, on cherche toujours à les... une fois qu'on les a développées un peu en interne sur nos données, on cherche toujours à les exporter au niveau national, parce qu'un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'une solution développée en interne sur des données en interne n'est pas forcément exportable à d'autres données dans d'autres centres, parce que les données sont un petit peu différentes, on n'a pas les mêmes machines d'acquisition, on n'a pas les mêmes processus, enfin bref. Et donc, du coup, l'étape 2, à chaque fois qu'on a fait une preuve, enfin plus qu'une preuve de concept, mais quelque chose qui marche en local, c'est de travailler avec d'autres centres Unicancer pour pouvoir faire en sorte que cette solution puisse marcher au niveau national. Donc, c'est la force du réseau Unicancer pour ça, et la collaboration avec tous les autres centres qu'on a.
En 2024, vous en avez parlé déjà en amont, vous remportez le prix Unicancer de l'innovation dans la catégorie Digital Data au service du patient lors de la Convention nationale des centres de lutte contre le cancer avec votre projet. Qu'est-ce que ça change, un prix comme celui-ci, dans votre pratique et dans l'avancée de votre recherche ?
Bah déjà, financier, ça nous a permis de pouvoir acheter des machines de calcul pour pouvoir développer les algorithmes d'intelligence artificielle. Après, et surtout, ça permet de montrer effectivement au niveau national que le centre François Baclay est loin d'être en retard, même en avance sur certains aspects, sur le développement d'intelligence artificielle et surtout sur la volonté que ce soit pas uniquement des projets de recherche fondamentaux, mais que ce soit vraiment quelque chose qui va jusqu'à la routine du patient. C'est vraiment nous motiver, nous reconnaître sur nos travaux pour qu'on puisse avancer encore plus.
Et pour l'instant, on a beaucoup parlé des apports positifs de l'IA dans le domaine de la santé, mais quelles sont, selon vous, les limites actuelles de l'intelligence artificielle en imagerie médicale ?
Alors, que ce soit en imagerie médicale ou au-delà, je pense que c'est la... Est-ce qu'on va être capable d'accompagner suffisamment l'arrivée d'une technologie qui a un potentiel énorme, qui évolue extrêmement rapidement. On le voit bien avec toutes les sorties de ChatGPT 1, 2, 3, 4, etc. Enfin, tous les jours, on a dans la presse un nouvel algorithme qui fait une nouvelle chose. Dans la santé, ça va un peu moins vite, mais globalement, on est quand même sur quelque chose qui est assez similaire. Donc, est-ce qu'on va arriver à avoir la vitesse, la souplesse pour accompagner ça ? Avec la même vitesse. Et c'est pour ça qu'on avait créé, en tout cas à Baclay, ce pôle intelligence artificielle où on avait mis, enfin on met à l'intérieur de ce pôle des experts en différents domaines, en sécurité informatique, en droit des patients, des experts en IA tout simplement, des experts médicaux, etc. Donc en fait, on fait toutes les deux semaines, on fait une réunion avec toutes ces personnes. pour voir, il y a une nouvelle solution qui est proposée, on a un industriel qui nous propose cette solution, est-ce que c'est pertinent ou non, est-ce qu'il y a assez de garde-fous en termes de sécurité informatique, en termes de droits des patients, est-ce qu'on n'a pas des fuites de données par exemple. On discute avec toutes ces personnes-là qui ont différentes compétences pour être sûr que si on l'amène en routine, on l'amènera de la meilleure des façons, en tout cas selon nous, en respectant l'AI Act, toutes les lois européennes et françaises à ce niveau-là.
Et maintenant, l'IA, elle est accessible à tout le monde. Et face à des déserts médicaux, des prises trop longues de rendez-vous, certains s'auto-diagnostiquent avec ChatGPT par exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas des dérives par la suite en raison des mauvais diagnostics pour ces personnes ?
Oui, c'est effectivement un risque. C'est pour ça qu'au-delà de la formation des professionnels de santé et puis des experts en informatique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut amener à l'école dès le début, qu'il faut amener dans la presse, et c'est la sensibilisation à dire qu'effectivement, enfin maintenant on voit bien dans les réseaux sociaux ou même n'importe où que le nombre de vidéos générées par IA, bien au-delà de la médecine, mais qui sont générées par IA et où on a du mal, si on ne fait pas trop attention, à voir si c'est du vrai ou si c'est du faux, c'est une sensibilisation du grand public à ce niveau-là, de toujours être critique sur ce qu'on voit. Et si on est critique sur une vidéo générée par IA de je ne sais quoi, on sera peut-être moins à même d'aller demander effectivement le prochain traitement pour demain à ChatGPT pour soi-même. Donc je pense que c'est surtout une sensibilisation à faire en sorte que les gens soient critiques de ce que propose l'intelligence artificielle.
Le centre Backless, à propos de votre étude, annonce des résultats positifs qui ont permis d'utiliser le système en routine. Le service est ainsi passé de 18 à 25 patients par jour, ce qui représente une nette amélioration des délais de rendez-vous. Toujours dans cette idée de dérive, est-ce que ces pratiques ne risquent pas d'alimenter un système, une vision productiviste du système de santé ? Parce que notamment aux assises de l'IA, il y a une question qui a été posée aux médecins en disant « Bon, si on va plus vite, si l'imagerie médicale va plus vite, si l'analyse de l'imagerie médicale est plus rapide, est-ce qu'on ne ferait pas plus d'imagerie médicale ?» Mais ce n'est pas du tout l'objectif.
Là, en l'occurrence, effectivement, c'était faire plus d'imagerie parce qu'on passait plus de patients et donc le délai d'attente pour les patients était diminué. J'ai envie de dire, on n'a pas attendu l'IA pour avoir une dérive productiviste en santé ou ailleurs, ça c'est très clairement. L'IA est un outil comme beaucoup d'autres pour effectivement potentiellement permettre cette accélération. Je pense que ça dépend de la philosophie des directions des centres et puis surtout de la loi qui doit encadrer ça. Encore une fois, c'est un outil supplémentaire, on peut avoir ce genre de dérive, et les seuls boucliers un peu à ces dérives-là, ça va être effectivement la loi qui doit encadrer ça, les certifications qui sont données par la Haute Autorité de Santé, par ce genre de structures qui peuvent valider ou non la façon dont on traite nos patients demain. L'HAS notamment a des nouveaux critères pour définir à quel point c'est acceptable ou non d'utiliser l'IA dans telle ou telle chose de cette manière-là. Ça doit normalement empêcher justement ce genre de dérive, parce qu'en tout cas, on utilise de la façon, encore une fois, la plus optimale possible au regard de ces critères de l'HAS, de la loi de l'AI Act, etc. Mais effectivement, c'est un outil supplémentaire qui peut amener à ces dérives très clairement.
Et vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, mais d'un point de vue du droit, comment vos projets respectifs, vos projets respectent-ils les questions de protection des données de santé qui sont particulièrement sensibles ? Parce que vous devez communiquer à l'IA, j'imagine, des données de santé, comment ça fonctionne et comment ils sont protégés ?
Voilà. Donc, alors plusieurs aspects. Donc, effectivement, les modèles de langage, ChatGPT et autres, si on l'utilise sur notre navigateur lambda, vont, lorsqu'on met du texte à l'intérieur, c'est directement envoyé aux États-Unis pour ChatGPT, en Chine pour DeepSeek. Et donc évidemment pour des patients, pour un compte-rendu d'un patient, pour des données médicales, c'est évidemment impossible d'utiliser ça pour pouvoir générer un compte-rendu. Et donc du coup c'est évidemment ce qu'on ne fait pas et ce qu'on bloque au maximum. Et donc pour ça par exemple, c'est pour les modèles de langage en tout cas, c'était de développer en interne, on peut tout à fait télécharger, prendre pour nous des modèles de langage qu'on met en interne, qui sont cloisonnés en interne, qui vont fonctionner en interne, et donc on va s'assurer que lorsqu'on interroge ce modèle de langage, les données qu'on lui donne ne vont pas partir à l'extérieur. L'autre aspect, au-delà des modèles de langage, c'est qu'à chaque fois qu'on va... Nous, c'est pour ça qu'au début, on s'est formé à ça, qu'on a développé PolyIA, qu'on a développé la Workstation IA, c'était d'être compétent en la matière et pouvoir nous-mêmes développer nos algorithmes. Effectivement, si on est toujours dépendant de sociétés externes, on a, même si on essaie de verrouiller au maximum, on a potentiellement des fuites possibles. Si on développe en interne, bah, c'est beaucoup plus sûr parce qu'on sait ce qu'on fait. Et l'autre aspect, c'est... En plus du pôle intelligence artificielle, on a créé un pôle data qui, évidemment, communique beaucoup avec l'IA, avec le pôle IA, parce que c'est des choses qui sont similaires, mais qui sont quand même différentes, dans le sens où, effectivement, il y a toute cette question de protection des données, où est-ce qu'on met les données, comment on s'assure qu'on respecte le droit, etc. Et toutes ces questions-là sont discutées dans le pôle data, où chaque projet de recherche, chaque nouvelle utilisation d'un algorithme est discutée aussi à ce niveau-là, pour s'assurer, encore une fois, qu'on respecte tout ce qu'il y a à respecter en termes de protection des données.
Pour terminer cet entretien à propos de l'IA au service de la santé, comment imaginez-vous les établissements de santé de demain avec l'intelligence artificielle ?
Moi, j'ai plutôt tendance à être positif quand même, optimiste sur l'avenir. À ce niveau-là, je pense qu'on l'a évoqué, c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel, qui peut être extrêmement puissante, qui peut permettre de faire des tâches qui finalement sont très redondantes, sont pas intéressantes pour beaucoup de gens. Encore une fois, je parlais du médecin qui coche des cases dans un dossier, c'est pas intéressant pour lui. Je peux parler pour eux, mais je pense que c'est pas pour ça qu'il a fait médecine. Donc très clairement, ça va permettre d'optimiser, de donner plus de sens aux différents métiers, d'optimiser en termes de gain de temps, en termes de sens effectivement au métier qu'on va donner. Après, encore une fois, c'est si on encadre bien ça avec des gens formés, bien sensibilisés, ça pourra se passer de la meilleure des manières. Encore une fois, un outil très puissant peut être très dangereux si on l'utilise de la mauvaise des manières, mais je pense que voilà, c'est si on sensibilise bien la formation, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'université, la formation sensibilisation adossée à un outil très puissant, ça peut donner vraiment de choses très intéressantes pour l'hôpital de demain.
Merci à vous Aurélien Courrier du Monde d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes au podcast sur phoenix.fm. Merci à Emile, à la technique. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Enzo pour la Méridienne. D'ici là, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.